Radio de la Paix, la grande interview.
Ben Diakité.
Bonjour à tous. Les Américains se sont rendus dans les urnes le mardi 5 novembre dernier, une élection qui a vu la victoire de Donald Trump aux dépens de Kamala Harris. Pour tirer les leçons de cette élection et son impact probable sur la politique étrangère des États-Unis, nous avons réuni sur notre plateau diverses personnalités issues des différents secteurs d'activité pour réfléchir sur le thème élection présidentielle. Le modèle américain peut-il inspirer la Côte d'Ivoire? Nos panélistes sont Monsieur Magloire Ndeye, chef bureau à la Fondation Friedrich Naumann, Madame Marguerite Yolubi-Koné, commissaire centrale à la Commission électorale indépendante, Monsieur Boga Sako-Gervais, enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara de Boaké, Maître Drissa Traoré, avocat au barreau d'Abidjan, secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme, et Madame Malika Camara, journaliste, présidente de l'association USA Alumni Échange Programme Côte d'Ivoire.
Radio de la Paix, se parler, s'écouter, se comprendre.
Mesdames et messieurs, comme je le disais en introduction, vous avez tous appris, vu, assisté à l'élection donc de Donald Trump. Quelle est votre réaction par rapport donc à l'élection de Donald Trump? On va commencer avec vous, Madame Yolibi. Qu'est-ce que vous inspire cette élection, ce retour à la Maison Ovale de Donald Trump?
Merci de nous donner l'occasion d'échanger sur cette question qui polarise le monde et qui attire l'attention du monde entier. Alors, même si je suis un peu déçue que la femme ne soit pas élue, mais c'était prévisible. Parce que le président Donald Trump a fait une campagne agressive. Et je dirais que c'est l'homme qui a été élu, c'est pas le parti républicain. À un moment donné dans sa campagne, même certains républicains lui reprochaient sa manière de faire. Mais il fallait compter avec ce que l'Américain veut. Qu'est-ce qu'il veut? Lorsqu'on regarde les 4 années passées avec la COVID, les Américains sont devenus plus pauvres. Quand vous allez aux États-Unis, il y a plus de SDF dans les rues. Et la question des frontières où l'Américain se sent agressé par les voisins. Et il semblait donner une solution également à la crise mondiale, la guerre qui se fait un peu partout. Et donc, les Américains se disent, on prend notre argent pour aller soutenir des crises à l'extérieur, alors que nous devenons de plus en plus pauvres. Avec Trump, cet argent va revenir. Et nous, nous allons retrouver nos assiettes comme on les connaissait. C'est vrai que je suis un peu déçue parce que la dame n'a pas été élue, mais c'était prévisible que le président Trump revienne au pouvoir.
Monsieur Boga Sako Gervais, suit la même préoccupation, réaction après l'élection de Trump.
D'abord, merci à la Radio de la Paix. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Très content de retrouver tous mes compatriotes et amis. Saluer tous les auditeurs de cette grande radio que nous avons beaucoup fréquenté à l'époque. Je veux me réjouir de la démocratie américaine. Je fais cette analyse aujourd'hui sous l'angle de mon pays. C'est-à-dire que comment mon pays peut tirer des leçons de ce qui s'est passé aux États-Unis, comment l'Afrique elle-même peut tirer aussi des leçons. Je ne vois pas l'élu, mais je vois un système démocratique qui a fonctionné. On a eu peur, et pour beaucoup de démocrates ou analystes, de ce que la démocratie américaine ne bascule dans un chaos, surtout avec le Capitole qui nous reste encore dans les esprits. Et Donald Trump était, si vous voulez, un peu à l'initiative, ou en tout cas cautionnait un peu cela. Non, on se disait aujourd'hui, qu'est-ce va-t-il se passer? Les Américains avaient peur. On se voyait un peu comme si on était en Afrique. On se barricadait, les Américains se barricadaient. L'élection se termine, l'Amérique est calme. Je suis fier des Américains. C'est-à-dire que ce que je note finalement, on va rentrer dans les détails après, peut-être qu'il y a eu des invectives, on a fait monter la température et tout, mais au fond, les institutions, en tout cas l'institution électorale américaine a fonctionné. Et c'est ce que je souhaite mon pays. Et je suis heureux d'avoir autour de la table quand même quelqu'un de la CEI, je pense que ça va être un beau débat. Merci beaucoup.
Maître Drissa Traoré de la Fédération internationale des droits de l'homme, votre regard sur cette élection aux États-Unis sont déroulés?
Je vais m'associer aux remerciements sans revenir sur ces remerciements-là. Je voulais dire que cette élection nous montre en réalité que l'élection présidentielle est vraiment le rendez-vous d'un homme et son peuple. Parce que Donald Trump a pris rendez-vous. Quand il a quitté la Maison Blanche, il a pris rendez-vous pour 4 ans. Et il s'est battu. Il est allé sur le terrain pour revenir au pouvoir. Et il s'est donné les moyens pour revenir au pouvoir. Et donc, C'est important. Et deuxième chose, c'est de se dire que l'élection se passe pas en réalité à la télévision, sur les réseaux sociaux. L'élection se passe aux côtés des populations. Que veulent les populations? Et donc, je pense que Donald Trump l'a compris. Et il a donné des réponses aux préoccupations des Américains. Et les Américains le lui ont rendu. Et nous ne pouvons que constater que les Américains ont fait un choix libre, un choix indépendant. Et ce choix-là, nous devons le respecter.
Madame Malika Camara, vous êtes présidente de l'association USA Alumni Échange Programme Côte d'Ivoire. Vous êtes par ailleurs journaliste. Vous avez suivi de bout en bout cette élection aux États-Unis. Et vos sentiments par rapport à ce qui s'est passé?
C'est une élection qui a été fortement médiatisée. Donc merci déjà de cette invitation, Ben Diakité. Je peux dire que c'est une élection qui a vraiment focalisé l'attention, pas seulement des États-Unis, mais du monde entier. Lorsqu'une décision est prise aux États-Unis, ça peut impacter le monde. Donc, il faut dire que c'est le triomphe de la démocratie. C'est, on peut dire, la victoire en griffe du populisme, parce qu'on va pas aller jusqu'à dire que Trump était le candidat du peuple, on va dire peut-être du populisme sur l'establishment américain. Quelque part, on peut dire que Kamala Harris a un peu payé le prix du bilan de Joe Biden. Au départ, on a assisté à un moment, c'est-à-dire depuis la période Covid, à une augmentation de l'inflation. On a retrouvé des ménages américains en train de planter des jardins potagers chez eux parce qu'ils n'avaient plus forcément les moyens d'acheter des fruits et légumes au supermarché. Donc, il y a eu ce problème. On peut dire que sur certaines questions, la question où elle a été un peu plus précise, ça a été peut-être la question de l'avortement. Sur les autres points, on n'a pas trop senti en fait une position claire en fait des démocrates. Et puis, si on veut faire l'historique, on sait que Joe Biden était pressenti, c'était prévu dans le plan qu'il soit le candidat des démocrates. Donc du coup, on peut dire que en termes de préparation par rapport à Donald Trump, on peut dire qu'elle n'a pas eu suffisamment de temps de préparation que Donald Trump. Donald Trump qui se préparait déjà depuis 4 ans. Là, pour cette élection, c'était prévu que Joe Biden se présente. À la dernière minute, on sent que sa santé commence à présenter des signes pas très positifs. Donc, on va dire que ça a été presque une improvisation parce que on se rappelle encore quelques semaines avant la campagne, il disait, il confirmait qu'il se présenterait. Et puis après, en dernière minute, c'est Kamala Harris qui est désignée. Donc, du coup, elle n'est pas peut-être très connue. Elle n'a pas été peut-être présentée, mise au devant dès le départ. Donc, on peut dire que ça, c'est des éléments qui l'ont peut-être défavorisé. Donc,
merci beaucoup, Malika Camara, pour ces premières analyses sur l'élection de Donald Trump. Avec vous, Monsieur Magloire Adéi, nous allons vous demander comment le processus électoral aux États-Unis, ça s'est déroulé, bien entendu, avant. Vous allez aussi donner votre sentiment sur cette réélection de Monsieur Trump.
Merci beaucoup. Je pense que je prends en compte les remerciements qui ont été dit tout à l'heure. Sur la première, je pense que les autres l'ont dit, je ne vais pas le répéter, mais c'est vraiment la victoire de la démocratie. On peut utiliser tous les superlatifs et tout, mais c'est vraiment la victoire de la démocratie parce que la victoire, c'est une seule chose. C'est le pouvoir du peuple. On pose la question, qui vous voulez? Le peuple répond. Et ici, le peuple a choisi. Le peuple a choisi. On peut ne pas être d'accord, on peut être d'accord, mais le peuple a fait un choix à un moment T de son histoire. Parce que dans un mois, il peut y avoir d'autres préoccupations par rapport au mois précédent qui peut être différent. Mais pour le moment, au moment où on leur posait la question, le peuple a fait un choix et qui pour moi, c'est très important à l'intégrer. Pour tous les acteurs politiques, justement, tous les acteurs doivent pouvoir intégrer que la politique ne vise qu'une seule chose, de répondre aux préoccupations des populations. Les observateurs, les analystes, tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour donner un peu du contenu, parfois des analyses et tout, mais c'est pas ça qui fait le vote. Le vote, c'est ce que les populations veulent. C'est eux qui choisissent. Il faut pas qu'on perde de vue cela, même dans notre contexte. Il faut que les acteurs politiques comprennent que tous ces analyses, tout ce qui se passe autour, c'est une contribution, mais l'essentiel, qu'est-ce que je propose aux populations? Deuxième chose que je veux quand même indiqué, c'est que la démocratie n'est pas sans insuffisance. Je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de systèmes politiques. La démocratie est le moins pire. C'est pas que c'est le plus extraordinaire, mais c'est le moins pire. Parce que les autres systèmes, le pouvoir est donné à une petite élite et à un petit groupe. Ici, c'est tout le monde. C'est ça qui fait le charme. C'est pas dit qu'il n'est pas sujet à des risques, à des tensions. C'est pourquoi, pour moi, le Capitole, j'ai pas pris ça autre mesure. On en a fait un vrai sujet mondial et tout. Mais il y aura toujours des crises dans la démocratie. La question, c'est si vous êtes une démocratie, vous aurez toujours la bonne réponse. Et les Américains, comme c'est une démocratie, la crise est venue, mais il y a eu la bonne réponse parce que la justice a répondu. Voilà, c'est ça vraiment. Donc, nous aussi, on sera sujet à des crises. Est-ce que si nous sommes une vraie démocratie, on pourra surmonter les crises? Chaque fois qu'il y a ces situations, je regarde, est-ce qu'il remplisse les critères, les fondamentaux de la démocratie? Il pourra s'en sortir.
Sur le système électoral, pourquoi tout le monde ne vote pas le même jour? Pourquoi il y en a qui votent électroniquement, d'autres se déplacent dans un même système? Comment on peut comprendre ça?
Les différents systèmes électoraux, il y en a de plusieurs. En sciences politiques, c'est pas moins de... Avec les hybrides et tout ça, on se retrouve 50 systèmes politiques qui puissent exister. Les choix se font pour chaque pays en fonction de son histoire, en fonction de sa géographie, en fonction de sa culture, en fonction de sa taille, puis surtout en fonction du modèle d'État que vous avez. Et aux États-Unis, la structure de l'État, il faut indiquer qu'il est important, la structure du pays, c'est un État fédéral. Donc, c'est une fédération. Donc, ils ont décidé de tenir compte de cette structure de la fédération pour choisir le système électoral. Le vote se fait donc en tenant compte des deux niveaux. Le premier niveau, ce sont les États fédérés. À qui on va poser la question? Donc, les États fédérés, c'est les 50 États plus la capitale, Washington. On va leur demander, vous, tous les habitants, tous les citoyens électeurs, dites-nous qui vous voulez ou diriger les États-Unis. Faites un choix. Donc, quand les populations dans l'État vont choisir, ce choix-là, en fait, il désigne en fait la personne qui va faire la liste des grands électeurs. Parce que chaque candidat, dans tous les États, propose ses grands électeurs au début. Donc, celui qui gagne les voix, c'est celui qui propose la liste des grands électeurs de l'État en question, qui vont, eux, vont aller voter au niveau fédéral. Donc, au niveau plus bas, eux, ils vont désigner la personne qui a mandat de désigner des grands électeurs qui vont représenter l'État au niveau fédéral, au niveau du vote fédéral. Donc, ce qui vient de se passer, on va prendre État par État, qui a gagné, qui a la majorité. Donc, si c'est Trump ou bien c'est Kamala, Trump désigne les représentants qui vont aller au fédéral. Si c'est Kamala qui a gagné, elle va désigner les représentants de l'État à aller au niveau fédéral. Une fois qu'on a constitué donc ce qu'on appelle le collège électoral fédéral, ils sont 538. Il y a des répartitions qui sont faites en fonction de la taille de chaque État. Donc, les 538, ils vont maintenant élire le président. Alors, c'est vrai, dans le jargon, on dit le président Trump est élu. L'expression qui serait mieux, c'est le président pressenti élu. Parce que l'élection du président n'a pas encore lieu. Ce qui a lieu, la désignation des grands électeurs. Donc, Trump, partout où il a gagné, il a fait sa liste des grands électeurs. Et Kamala, partout où il a gagné, il a fait sa liste des grands électeurs. Donc, en décembre, autour du 15-17 décembre, c'est les 538 qui vont aller voter le président. Donc, ils se retrouvent dans leurs États, chacun va voter. En théorie, la loi ne leur demande pas d'être fidèle à celui qui les a désignés. Donc, c'est vrai, Trump a choisi des gens, mais ils peuvent ne pas le voter. C'est arrivé quelques fois dans l'histoire, quelques rares fois, mais généralement, c'est comme nos élections municipales ici. On choisit un collège électoral, les conseils municipaux vont choisir le maire. Bon, ça arrivait à Yopougon une année, ça arrivait à Pobo une année, et ça vient d'arriver à Daloa très récemment. Donc, ils peuvent ne pas voter, mais généralement, ça va de soi. Donc, c'est autour du 17 décembre qu'il y aura l'élection du président. Là encore, si ils font l'élection le 17 décembre et qu'il y a égalité, en ce moment, c'est le Congrès qui va choisir. Donc, dans le Congrès, il y a deux groupes. Il y a les représentants et les sénateurs. Les représentants vont choisir le président et les sénateurs vont élire le vice-président au cas où il y a égalité. Voilà, mais c'est pas évident, c'est pas très sûr. Et maintenant, c'est le Congrès qui donne les résultats définitif en janvier.
Monsieur, est-ce que nous, dans le cadre de notre pays, la Côte d'Ivoire, on sait que les élections en présidentielle, c'est le dernier samedi du mois d'octobre et tout le monde va voter et on donne les résultats. Est-ce que aussi on ne peut pas permettre aux gens, pour avoir vite les résultats, de voter électroniquement?
Maître Aurélie Drissa. Moi, je vous l'ai dit déjà, nous sommes un État unitaire, on n'est pas un État fédéral. Le corps électoral n'est pas si immense que ça. Notre pays, quand même, a l'avantage d'avoir un réseau routier assez important. Les bureaux, les lieux de vote ne sont pas aussi éloignés des populations. Je pense qu'en une journée, quand même, on devrait pouvoir le faire, et surtout que nous sommes encore dans une démocratie en construction. Peut-être que notre système est à améliorer. Vous avez parlé de la question du vote électronique. Peut-être que c'est quelque chose à voir, parce qu'aujourd'hui, même pour la tablette, pour refaire le recensement, il y a la tablette et tout ça, comment ça veut se concevoir. Mais on sait que dans certains pays, cela a été critiqué. Parce que certains ont estimé que les données dans les tablettes, elles étaient déjà falsifiées, que si tu votais pour X, c'est Y qui sortait. Et donc, pour tout ça également, c'est bon quand même de bien réfléchir en amont et d'arriver à trouver le bon système. Je pense qu'il faut qu'on arrive quand même à programmer les résultats le même jour.
Monsieur Boga Sakho-Gervais, sur la question, est-ce qu'il faut introduire l'électronique, l'utilisation de l'électronique dans le jeu électoral en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il faut aussi faire dérouler le vote sur plusieurs jours pour permettre au maximum de personnes de voter?
Moi, ce que je voulais déjà dire, je vais rebondir sur ce qu'a dit notre ami de Friedrich. Oui, Maglane. En fait, chaque pays s'adapte à son système, invente son système. Là, on est aux États-Unis dans un État fédéré. Donc, il fallait ça. Et puis, il y a des États qui sont plus immenses que d'autres. Donc, pour ne pas léser certains... Donc, ils ont adapté, ils ont beaucoup réfléchi. C'est pour ça que moi, je suis fier des pères fondateurs de l'Amérique. Ils ont fixé les bases. Et puis après, on a amélioré le système en évoluant. Ce que nous recherchons ici en Côte d'Ivoire, vous voyez qu'on est dans une période de balbutiement. Depuis notre multipartisme, là, on était parti avec le ministère de l'Intérieur. Et puis... tous les États africains ont demandé qu'il y ait des commissions électorales. Nous sommes en train d'évaluer nos commissions électorales. Et pour y répondre, ce n'est pas au cours d'un débat comme ça. Il faut, on appelle ça dialogue national, mais à la vérité, il faut vraiment qu'on fasse asseoir toutes les corporations et puis on invente un système. C'est ça un pays qui n'a pas d'arrière-pensée, qui n'a pas de parti pris. Et moi, je voudrais qu'il y ait des autorités qui soient pères de cette démocratie améliorée en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, à un moment donné... entre deux élections, on n'est même pas une période électorale. On choisit un corps électoral, on organise des assises. Venez, on va composer un système électoral fiable, indiscutable. Et ça, quand vous l'inventez, vous le fixez dans la Constitution. Et puis c'est bouclé. De façon à ce que personne n'ait à redire. Donc je voulais d'abord commencer par là. Déjà, parce que ce que nous faisons aujourd'hui, on fait des propositions. Il y en a qui adhèrent, il y en a qui n'adhèrent pas. Même quand on parle de la tablette, on est en train d'électroniser notre système. Les tablettes ne fonctionnent pas. À côté de moi, il y a la CEI. On a observé l'élection. Il y a plusieurs cas où la tablette ne fonctionne pas. On dit à partir de certaines heures, c'est bloqué. Vous voyez, donc ça veut dire que notre système est à améliorer. Moi, ce que je voudrais dire, comme rien n'est fixé à 100%, et il faut tenir compte des erreurs. Vous me parlez de la Côte d'Ivoire, mais je vais commencer par le B.A.B.A. On a un problème avec notre liste électorale. Cette liste-là, elle date de plusieurs années et on se rend compte que les gens font des critiques parce qu'à la base, elle est faussée. On est parti depuis lors où, à l'époque, on avait la carte d'identité jaune qui était falsifiable sur les marchés et tout ça. Il y a des gens comme ça qui sont sur la liste électorale. Je préfère aujourd'hui relativiser pour dire il faut entre deux élections. C'est-à-dire qu'on a élu le président au milieu là. Avant l'autre élection, on fait table rase et puis on essaie d'améliorer notre système. Ça va nous aider. Moi, je pense.
Madame Yolubie, à commissaire CEI.
Je voudrais répondre un peu à ce qu'il a dit. Les tablettes ne fonctionnent pas. Ce n'est pas vrai. Les tablettes ont toujours fonctionné. Moi, je mets quiconque au défi qui dit que les tablettes ne fonctionnent pas. Les tablettes ont toujours fonctionné. On dit à un certain moment, les tablettes ne fonctionnent plus. C'est faux. C'est les politiciens qui viennent faire pression sur les agents électoraux pour dire « la tablette met trop de temps ». Mettez ça à côté. Moi, j'ai vécu ce fait-là. Je vais, on dit, la tablette ne fonctionne pas. Où elle est? Sous les papiers. Sors la tablette, allume-la. Madame, pardonnez, ne me honnissez pas. La tablette fonctionnait. C'est les politiques. Et puis, cette question de liste électorale. Ça a été un accord en 2009 pour que les gens s'inscrivent sur la liste électorale avec les extraits de naissance. Ça, c'était un accord entre le président qui était là, le premier ministre, etc. Ils se sont entendus là-dessus, on a fait cette liste électorale. Mais en même temps, le code qui a été voté donne les conditions pour faire table rase de la liste électorale. Il y a des pays où on dit, c'est écrit, dans 10 ans, quand on fait un nouveau recensement, on doit faire une nouvelle liste. Chez nous, on dit, la liste, elle est révisée. L'article 12 dit, la liste est révisée. Et a donné en même temps les conditions de mettre à plat la liste. Mais c'est dans le code électoral. Les politiques qui demandent à la commission électorale de mettre à plat la liste électorale, mais ils ne sont pas conséquents avec eux-mêmes. Ils n'ont qu'à commencer par changer le code électoral avec lequel nous travaillons, nous, commission électorale, avant de dire « mettez à plat ». Mais ils savent où on change le code électoral. Ce n'est pas la commission électorale qu'on change le code électoral. Maintenant, je reviens sur la question de l'introduction du vote électronique en Côte d'Ivoire. Moi, en 2016, je suis allée aux élections. Je suis allée observer les élections de Trump, justement, avec c'était Hillary Clinton. Quand je suis sortie de là, j'ai vu ce système où, en une seule journée, chaque État, d'un État à un autre, ils avaient leur système. Il y a certains dans des États où il y avait le vote électronique, en même temps à côté le vote manuel, etc. Et on votait en même temps les représentants au Sénat, on votait même les juges, etc. Mais avec le vote électronique, on pouvait avoir les résultats. Moi, quand je suis venue, j'ai eu la chance de proposer ça à mes collègues à la commission électorale. Ils m'ont dit, mais ce n'est pas nouveau. Il y a eu des missions de la Côte d'Ivoire qui sont allées dans plusieurs pays, qui sont venues mettre des machines avec l'Inde, qui est la plus grande démocratie au monde. Il y a une machine pour voter en Inde. Ils ont proposé ça ici. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème de confiance. Ils ont refusé, les politiques ont refusé. Et nous, moi, quand j'ai eu la chance d'être commissaire central, on a dit qu'on prenne une circonscription témoin, qu'on utilise ce vote électronique-là dans cette circonscription témoin à côté du système ancien. Les politiques ont encore refusé. Ce qui est déplorable parce que c'est les politiques qui ont pris en otage la population. Et ça aussi, il ne faut pas avoir peur de le dire. Là, on dit oui, c'est vraiment honoreux, effectivement, d'ouvrir des centres pour dire qu'on va s'inscrire. Alors qu'on aurait pu déverser, comme certains le demandent, directement ceux qui ont déjà la carte nationale d'identité. Mais on ne le fait pas. Mais c'est les politiques encore. C'est eux. Le pays l'a rythmé par ça. Et puis, ils savent où on change les lois. Ce n'est pas la commission électorale qu'on change les lois. Et pour terminer sur le... Est-ce qu'il faut voter samedi, sur deux jours, etc. Effectivement, je suis d'accord que le pays n'est pas assez grand. Pour ça, on peut voter en une seule journée. Et le jour n'est pas important si on a compris la démocratie. Donc, il faut commencer à former même nos populations à la démocratie. Aux États-Unis, là, c'est un mardi. C'est un jour de travail. Mais les gens sont allés voter. On a dit dimanche, les gens vont au culte. Ça n'intéresse pas. Les politiques devraient, et tout le monde même, la société civile devrait se mettre à former la population pour qu'elle accepte ce qu'on appelle la démocratie.
Ok, merci beaucoup, Madame Yoli Bikone. Je vais m'adresser à vous, Madame Malika Camara. Ce regard qu'on a vu des élections aux États-Unis, quels sont des exemples qu'on pourrait utiliser dans nos pays? Parce que le but étant qu'on donne le pouvoir au peuple et que le vote exprimé du peuple soit celui qui sort des urnes. Est-ce qu'il y a des modèles, est-ce qu'il y a des exemples dans ce processus électoral américain que vous avez vu qu'on pourrait utiliser chez nous ici pour améliorer notre processus électoral, bien entendu?
C'est vrai que les deux systèmes sont assez différents. C'est vrai que là-bas, avec le fédéralisme, on est obligé, il y a des zones, des États qui sont beaucoup plus peuplés que d'autres. Donc, ce sera forcément déloyal. Donc, à ce niveau, je pense qu'on peut dire que comparaison n'est pas forcément raison. Mais peut-être sur le plan médiatique, déjà, bon, concernant le vote électronique, il faut, ce que je peux dire, c'est qu'il faut une volonté politique. Parce que pour avoir quand même des approches innovantes, aujourd'hui, on peut dire que même dans les villages, tout le monde est sur son téléphone. C'est-à-dire, même des femmes qui sont analphabètes aujourd'hui trouvent le moyen de faire des audios sur WhatsApp. Donc, quitte à ne pas rendre cela obligatoire, on peut quand même aller sur une option, c'est-à-dire de façon optionnelle, et comme l'a dit Madame Yolibi, peut-être commencer avec des projets pilotes dans ce sens-là.
En termes de couverture, et puis en termes de présentation de l'offre politique de ces personnes-là, vous, en tant que journaliste, quel a été votre regard? Est-ce que ce modèle peut être expérimenté?
En termes de couverture médiatique, on salue déjà le débat télévisé qu'il y a eu entre les deux colistiers. Donc, on a plus souvenir, en tout cas, du dernier débat où des thèmes quand même pertinents qui concernent les électeurs ont été abordés. On a vu que, par exemple, dans le discours de Trump, il y a des mots qui sont revenus. On a, par exemple, des sujets clés comme les mots économie, inflation, prix qui ont été prononcés à 39 reprises. Et Trump qui a vraiment utilisé aussi sa rhétorique, qui est un point aussi qui a été à son avantage, ça a été la rhétorique, c'est le fait de répéter des mots. Il est revenu aussi sur des mots comme immigration, comme frontière, comme criminalité. Et ça a été vraiment l'un de ses points positifs dans sa manière même de communiquer, on va dire, le regard même qu'il avait, c'est-à-dire il a incarné quelque part la résilience, la hargne, la puissance des États-Unis. Je ne peux pas affirmer que tout ce qu'il a dit est vrai, mais il a réussi à convaincre. Il y a la candidate Harris, de son côté, qui est revenue sur la santé, sur les impôts. Et on peut dire que ces thématiques qui ont été abordées, parce que comparé aux États-Unis, ce sont les politiques souvent qui nous emmènent vers des sujets, alors qu'il faut traiter des sujets qui concernent vraiment les populations. Donc on a eu l'économie, on a eu l'immigration, comme j'ai dit, il y a eu la question de l'avortement qui a été traité au cours de ce débat, les impôts, la question de l'Ukraine. Et pour parler de l'Ukraine, il faut dire aussi qu'un point qui a été relevé, c'est que en réalité, les Américains, les populations, sont indifférentes à tout ce qui concerne ces guerres-là. Donc, il y a eu ce cas.
Sur le même sujet, Magloire Ndiaye voulait réagir, donc allez-y.
En termes d'expérience pour la Côte d'Ivoire, en regardant ce modèle, moi, il y a trois choses que cela peut inspirer dans notre contexte. La première chose, c'est une société de confiance. Il faut qu'on arrive à construire une société de confiance. Et c'est entre les citoyens et les institutions. Le sujet de la CEI, ça montre en fait, les citoyens n'ont pas confiance dans les institutions. Entre les citoyens eux-mêmes et les politiques, il y a ce grand fossé qu'il nous faut reconstruire. Et le système américain l'a montré. C'est une société de confiance. Comme je l'ai dit, dans une démocratie, les crises viendront toujours. Mais quand les institutions et ceux qui les animent, la qualité y est, je suis d'accord qu'il nous faut un vrai dialogue national. Ne pas attendre. Je suis parfois malheureux quand on parle du dialogue politique, je vois que les partis politiques. Mais le dialogue politique, c'est une erreur de dire que ce sont les partis politiques. La politique, ce n'est pas que... Mais c'est tous les citoyens. Il faut qu'on crée un cadre de dialogue des citoyens, un dialogue politique qui rassemble vraiment pour résoudre ces questions qui sont très urgentes. Deuxième sujet, c'est l'éducation politique. Les Américains, c'est pas un hasard. Ils sont éduqués politiquement. Madame Yolbi qui le disait, on peut mettre mardi, jeudi, tel qu'on veut, mais parce qu'ils sont éduqués politiquement. Ils sont éduqués politiquement, donc ils savent que la politique, s'ils la font pas, d'une manière ou d'une autre, les autres feront. Et ça va s'appliquer à tous, donc ils ont un intérêt. Mais ça, chaque fois dans mes chroniques, je le dis, mais la vie politique, il faut une éducation. Pour qu'on sache comment on vit en société. Regardez les entreprises qui étaient mobilisées, les hommes d'affaires qui étaient mobilisés. Parce qu'ils ont compris que la politique se fait dans la cité et ça les impacte. Ils doivent donner leur avis. Dernière chose, en termes d'expérience, c'est l'autonomie des organisations qui organisent les élections. Il faut que nos organes soient décentralisés. C'est vrai, on est un petit État, la structure électorale, ça a à peine 7-8 millions, c'est pas beaucoup, c'est vrai. Mais je pense qu'on peut gagner du temps si on a une forte décentralisation avec les commissions électorales autonomes dans les régions. Ils donnent les résultats dans leurs zones. Chacun donne ses résultats. Comme ça se fait aux États-Unis, c'est pas compliqué partout ailleurs. Chaque région donne ses résultats. Après, au niveau central, on additionne 1 plus 1 et puis c'est tout.
On va revenir sur cette question parce que ça pose le problème de délai de publication des résultats. Alors, puisqu'il faut consolider avant que la commission centrale ne publie les résultats, je pense que c'était la préoccupation.
Si on permettait
déjà aux citoyens d'avoir l'information.
Mais ils ont l'information.
Non, mais on dit qu'il ne faut pas publier les résultats avant et que c'est la CEI centrale qui doit donner les résultats.
Les résultats consolidés.
Consolidés.
Mais tout le monde a les résultats des régions.
Oui, mais.
Donc il reste quoi?
Allons-y sur cette préoccupation.
La préoccupation de laquelle?
Qui est que pourquoi est-ce que on ne publie pas les résultats officiellement de façon autonome dans chaque région, dans chaque bureau de vote?
Je pense que les prochaines élections, il va falloir que vous suiviez comme ça se fait. Selon le mode opératoire, les résultats, selon le code électoral, les résultats sont donnés par bureau de vote devant tout le monde. C'est-à-dire quand il a fini là, il sort. Il donne le résultat. C'est seulement après ça que ces résultats qui sont donnés et les PV qui sont donnés aux représentants présents, qu'un seul PV de ces PV qu'on a déjà donné arrive à la commission locale. Et c'est au niveau de la commission locale que la compilation de ces PV qui ont été déjà donnés là sont consolidés sur un vidéoprojecteur devant tout le monde. C'est comme ça que ça se passe. Et ce sont ces résultats consolidés devant tout le monde qui viennent à la commission centrale pour qu'on mette ensemble pour donner le résultat global. Donc quand ça se fait devant tout le monde, moi, j'ai eu à constater, on se retrouve tout seul. Les candidats n'ont pas de représentants là. On est avec l'administration, mais les candidats sont pas là. C'est fait sur vidéoprojecteur devant tout le monde. Depuis un certain temps, les 610 commissions électorales de Côte d'Ivoire ont chacune un ordinateur, un vidéoprojecteur. Et ça se fait comme ça partout. Et donc, je vais dire, celui qui veut avoir ses résultats, un candidat sérieux, il a ses résultats avant qu'on ne les donne. Maintenant, ce dont vous parlez, qu'on ne publie pas, ce n'est pas la CEI qui le dit. C'est L'article 39.
Non, vous ne reprochez pas la CEI.
Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut, s'il y a des révisions à faire, c'est au niveau de la loi.
Et c'est ça là où
nous sommes d'accord avec lui. C'est pour ça que je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il faut s'asseoir, nous tous, pour penser ce qu'il y a et puis modifier ce qu'il y a à modifier.
Exactement.
Je suis d'accord avec vous.
Monsieur Bogas Sako Gervais, allez-y.
Non, j'ai compris. En fait, je vais dire que quand on est dans un carcan d'une loi, est-ce qu'on a le droit de sortir de la... Vous nous donnez la permission de sortir de la loi pour faire ce qu'on veut.
Non, on ne critique pas la CEI.
Voilà. En fait,
c'est la loi.
Mon cher Ben, tu as quitté.
Oui.
Mon cher Ben.
Oui. Vous voyez, Bogas Sako Gervais, oui.
Tout à l'heure, je suis intervenu. Elle a répondu. J'ai noté parce que comme on fait un débat civilisé, je ne voulais pas en même temps. Sûr. En fait, les responsables de la CEI, ils s'offusquent chaque fois que nous faisons des critiques. Je ne suis pas dans la loi. Quand j'ai parlé tout à l'heure, la loi n'a pas prévu ce dialogue dont je parle là. Les lois, c'est nous qui les faisons. Quand une loi, à un moment donné, est bloquée ou elle bloque notre pays, on se retrouve, on discute et ainsi nous donnons, parce que c'est le Parlement qui fait les lois. Si vous voulez, c'est le peuple qui fait les propositions. Je suis d'accord avec eux. Ils parlent de l'article 12 qui est une sorte d'audit. Mais ça ne suffit pas. Notre pays est bloqué parce qu'il y a un doute. Tout à l'heure, on parle de confiance. À un moment donné, là, Donald Trump, il n'avait plus confiance aux institutions. Son discours a été musclé pour dire, même si je perds, je vais attaquer. Vous vous rappelez, il a dit tout ça publiquement. Quand tu n'as pas confiance dans les institutions de ton pays, tu doutes. Même quand c'est vrai que tu as gagné, on doute. Établissons la confiance en Côte d'Ivoire. Et c'est à ce niveau-là qu'on a un problème. Et le problème que j'ai avec les responsables de la CEI, lorsqu'on parle de l'audit, ce sont eux qui veulent répondre. Non, ça vous dépasse, ça ne vous concerne pas. Vous êtes dans une loi, restez dans votre loi. Quand nous parlons d'audit, laissez-nous avec les décideurs, les autorités. Et c'est mon gros reproche que j'ai avec eux, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont toujours tendance à vouloir répondre à la place de l'État. Oui, la question du code de l'État, moi je suis d'accord, c'est une loi, vous êtes dedans. Nous, on voit que sur le terrain, ça peut nous poser problème. Il peut y avoir des crises. Donc, nous demandons aux autorités. Quand on parle de tout à l'heure, j'ai parlé de dialogue politique. Mais ce n'est pas à vous qu'on s'adresse. On s'adresse aux autorités pour dire, venez, on va faire l'audit. Et comment je parle de la liste électorale, je ne parle même pas de vous. Vous avez une liste que vous appliquez. On va au-delà. On dit, on a extrait le nom d'un tel et tel. Nous, on ne veut pas de guerre. On dit, bon, notre système, là, viens, on va l'évaluer ou du moins le réadapter. Si on l'adapte, la commission électorale, qu'elle reste là ou qu'on la change, parce que moi, je veux qu'on la change. Moi, je dis, les politiques n'y ont pas leur place. Je dis, le président de la République n'a pas sa place là-bas. Alors qu'on est d'accord qu'à l'époque, on l'a demandé depuis le temps du président Gbagbo. Les partis politiques se sont tous mis d'accord pour nous éjecter. Au début, on n'y était pas. Maintenant, Yolibi n'y était pas. C'est après les pressions qu'on nous introduit à chaque fois. Aujourd'hui, on a vu qu'ils nous bloquent un pays parce qu'ils sont en même temps en compétition et ils sont en même temps à la commission. Il faut qu'ils en sortent tous. Il faut que l'appareil, on le mette à plat et qu'on aille sur de nouvelles bases.
On va écouter Maître Auré.
Moi, je pense que pour les élections de 2025, on ne pourra pas tout mettre à plat. Mm-hmm. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Et l'autre volet, je pense qu'on devrait pouvoir faire en sorte que dans chaque CU local, les résultats soient publiés et diffusés. C'est la loi qui doit être modifiée dans ce sens-là. Moi, personnellement, j'ai mal quand j'entends Boga parler de fraude sur la liste, comme si cette liste-là est infectée. Non, on parle le verbalement. Mm-hmm. Moi, je dis, vous connaissez les voies. Mm-hmm. Le contentieux va s'ouvrir, aller avec les preuves pour que les gens soient sortis. Il ne suffit pas. Et c'est ce qui est, pour moi, c'est extrêmement grave. Parce que c'est ça, justement, qui entraîne les conflits après. Parce que quand nous-mêmes, acteurs de la société civile, on dit qu'il y a fraude, que cette liste-là, elle est...
Mais c'est des éléments concrets.
Mais on ne produit aucun élément.
Il
ne produit aucun élément. Les éléments sont produits à la justice. On connaît le contentieux. Mais aujourd'hui, on a la possibilité de réviser. Saisissons l'occasion que nous avons. Ça fait peut-être 2 ans, il n'y a pas eu de révision. Mais aujourd'hui, là, tous ceux qui n'ont pas été peuvent aller. Moi, j'ai visité des lieux de révision. Il n'y a personne. Moi, j'ai mal. Il n'y a personne. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il y a fraude. Mais on dit, on peut produire, on peut dire, X, Y n'est pas ivoirien. Mais allons au contentieux. Produisons les preuves. Il ne suffit pas de déclarer. Il faut aller. Et moi, je pense... Il faut savoir raison garder. Il faut utiliser les voies de droit qu'on a aujourd'hui. L'audit, là, c'est quelqu'un d'autre qui va décider. Mais aujourd'hui, on a les voies de droit. Utilisons les voies de droit et puis montrons que ce que nous disons est vrai.
Nous sommes à l'émission Démocratie en progrès. Et dans le cadre de cette émission, nous parlons aujourd'hui de l'élection présidentielle. Le modèle américain peut-il inspirer la Côte d'Ivoire? C'est l'objet de notre rencontre. C'est vrai qu'on a parlé du processus électoral, de la commission qui organise ces élections. Moi, je voulais maintenant, chers amis, qu'on s'intéresse au discours des politiques pendant cette campagne-là. Les discours étaient parfois très violents, stigmatisants. Comment se fait-il que ces discours qui étaient stigmatisants, ça n'a pas créé de problème outre mesure? Ça s'est bien déroulé, nonobstant les discours qui étaient enflammés par moments. Comment on peut expliquer cela, Monsieur Bogasako?
Tel que présenté, on pense que les choses ont été aussi simples. Tantôt, je disais que l'avant-élection était terrible quand même aux États-Unis. Je dis que les gens se sont barricadés et je n'invente pas. Mm-hmm. J'en viens même encore plus. À la veille même, à la télévision, les gens le disaient, les gens se barricadaient. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a eu un samedi 13 juillet, où Donald Trump a failli perdre la vie. Quelqu'un a tiré sur lui. Mais pourquoi? Alors qu'il n'avait vraisemblablement rien fait. Mais ça dépend de ce que les gens lui reprochaient. Ça a fait monter aussi la tension jusqu'à ce qu'un énergumène décide de l'éliminer. Donc tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû quand même aussi au discours. Il y a une sorte de bipolarisation du monde où les gens... Chaque fois, moi, je suis offusqué quand je vais en France. On considère Marine Le Pen comme raciste, comme c'est ça. Mais quand on va aux élections, elle arrive toujours au second tour. Mais qui la vote? Ça veut dire qu'il y a tapis dans l'ombre, dans la société française, des gens qui aiment cette politique-là. C'est exactement ce qui s'est passé avec Donald Trump. Les gens font comme s'il est violent, il est ceci, cela, mais au finish, voilà. Donc, pour revenir précisément à votre question, la violence-là, elle peut être dangereuse. Et dans nos États africains, elle peut dégénérer, mais de façon gravissime. Vous voyez souvent les débats, quand on stigmatise une société, ça peut tout de suite là se traduire dans la réalité où on peut se ruer contre une population. C'est extrêmement dangereux.
Monsieur Magloire, sur la question, le discours pendant la période de campagne aux États-Unis.
Les hommes sont les mêmes partout. La nature humaine, je vais dire, la nature humaine est pareille partout. On est fait aussi de violence. Tous les êtres humains, on est fait de violence. Et c'est dans notre façon de maintenant d'éduquer, de structurer, de créer le cadre qui va... C'est pourquoi Ressort a dit l'homme est un animal politique. Et que l'homme, par essence, il est comme tous les animaux grégaires. Mais comme il vit en société, il va être un peu policé, aménagé. Donc, que ce soit aux États-Unis ou ici, on aura tous les mêmes attitudes. Et dans la démocratie, une fois que je l'ai dit, la démocratie, c'est le même principe partout. Mais il faut créer les garde-fous. C'est les garde-fous qui font que ça ne dégénère pas. Alors, dans le cas américain, c'est les mêmes réalités. Pour les meetings, les mêmes réalités que nous vivons dans nos meetings ici, ont lieu là-bas. Les gens bousculent, les gens viennent agresser. Bon, tout à l'heure, ils ont tiré. Mais c'est les mêmes pratiques chez nous ici. Mais lorsque ces événements arrivent, moi j'ai vu dans certaines vidéos qu'ils m'ont partagées, les gens qui venaient faire la violence, on les a pris, on les a remis aux autorités, à la justice. Parce qu'ils y croient. C'est comme ça qu'on peut canaliser la violence. Deuxième chose, une fois que je reviens à la question de l'éducation politique. Donc, vous voyez, ils sont comme nous aussi. Mais il y a les deux éléments là qui tiennent la démocratie, là, l'éducation et la justice. Plus loin, l'éducation des leaders politiques. Je rencontre des leaders politiques, excusez, ça peut être un peu violent de le dire, des leaders politiques de haut niveau, mais qui ne savent pas c'est quoi l'État. Tu ne sais pas c'est quoi un État, tu ne peux pas être un homme d'État. Tu ne sais pas c'est quoi la démocratie. Parce que la démocratie, il y a ce qu'on pense que c'est, et puis il y a ce que la démocratie est. Tu ne sais pas c'est quoi la démocratie, tu ne peux pas être un démocrate. Tu ne connais pas la République, mais la question de la République, si tu ne sais pas c'est quoi c'est, tu ne peux pas être un républicain. Donc la question, c'est la formation. C'est pourquoi les Allemands, là, une fois encore, peut-être ça sera un dernier mot, une fois encore, je le répète, les Allemands ont été les plus barbares dans l'histoire de l'humanité. En tout cas, la dernière guerre mondiale nous l'a dit. Alors que c'est les plus grands génies, les plus grands scientifiques du monde, là, c'était les Allemands. Donc, on peut être très intelligent à l'école et puis être une société de violence. C'est pourquoi ils ont dit, mettons en place l'agence d'éducation politique. 1952, agence fédérale. Mettons en place les fondations politiques. C'est des milliards chaque année, mettre dans les fondations politiques. Éduquer les ministres, éduquer les journalistes, éduquer les citoyens. Tout le monde est éduqué en Allemagne à la chose politique. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Nous, on n'a pas fait.
Alors, deuxième préoccupation toujours par rapport à cette élection présidentielle aux États-Unis comme... élément inspirant peut-être pour notre jeune démocratie en Côte d'Ivoire. On a vu les sondages utilisés dans le jeu démocratique américain. Est-ce que les sondages pour notre jeune démocratie sont des instruments ou des outils nécessaires? Quel est votre avis sur la question? Maître Drissa Traoré, vous avez le micro.
Pour moi, je pense que les sondages, c'est des gens qui commandent les sondages. Si des personnes estiment que le sondage peut les aider à orienter leur politique ou à orienter leur discours pour ou faire même leur programme de société, pour moi, à ces personnes de les commander. Mais ce n'est pas les sondages qui vont faire les élections. Mais je pense que ça peut être utile pour comprendre un certain nombre de choses. Et on le fait tous les jours. Peut-être que ce n'est pas sur la question électorale, mais on prend toujours des échantillons quand on veut expérimenter quelque chose. Pour moi, c'est toujours possible. Et pour moi, ce n'est pas du tout mauvais. C'est pas du tout mauvais, ça peut peut-être donner des orientations, ça peut permettre des regroupements, etc., etc. Et donc, j'encourage ceux qui veulent le faire, en tout cas, de le faire, mais c'est pas obligatoire.
Madame Yolubi, sur la question des sondages électoraux.
L'article 39 du Code électoral dit « Il est interdit à toute personne physique ou morale non habilitée à cet effet de publier ou de diffuser des estimations de vote ou des résultats de sondage sous quelque forme que ce soit, à partir de quelque lieu que ce soit, à compter de la publication de la liste électorale définitive. » Quand je lis ça, je m'appuie un peu sur ce que Magloire a dit. C'est une question d'éducation. Les populations sont-elles prêtes à faire la différence entre les sondages et la réalité? Parce que les discours politiques ont passé le temps à chauffer les gens à blanc. Ils n'ont pas d'électeurs. Ils font des meetings. Ils donnent des t-shirts à des personnes qui ne sont même pas électrices. Donc, c'est des majorités de meetings. Les jeunes qui se rassemblent là, s'ils sont 5 candidats, chaque jeune a les 5 t-shirts. Quand le premier s'en va, l'autre reporte, le même jeune porte les autres. Et donc, chacun se dit qu'il est élu. S'il proclame, est-ce que lorsqu'on va donner les vrais résultats, est-ce que les Ivoiriens sont prêts, ses partisans sont prêts à accepter les résultats de l'urne? C'est pour ça que je dis Magloire a raison. Il faut éduquer les populations à faire la différence, à savoir que il y a des discours politiques et il y a la réalité. Mais chez nous ici, le problème c'est quoi? On chauffe à blanc tout le monde, on détruit les institutions, les hommes politiques, en tout cas les candidats ne se font pas confiance, et puis tout est à plat. Et on veut que ça soit apaisé. Ça ne peut pas être apaisé parce que c'est nous-mêmes, nos hommes politiques qui chauffent la population à blanc. Donc les sondages, ça dépend de l'histoire du pays. On va permettre de dire un sondage. Est-ce que quand on va donner les vrais résultats, les gens vont accepter les résultats qui ont été donnés? Il faut voir aussi la sociologie de l'état où nous sommes. C'est peut-être une bonne chose, mais c'est pas une bonne chose dans les élections en l'état actuel où nous sommes.
Malika Camara, sur les sondages, quel est votre avis?
Bon, je pense que idéalement, ça serait bien d'ouvrir, en tout cas, d'utiliser, d'avoir recours au sondage. Maintenant, je rejoins Monsieur Ndeye et Madame Yolibi sur la question de l'éducation. Mais pour rebondir sur ce que Madame Yolibi a dit, au niveau de l'acceptation des résultats, il faut dire qu'il y a eu une sortie de route, si je peux qualifier ainsi, du candidat vainqueur. C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde rit, tout le monde dit que c'est la démocratie qui l'a emporté. Mais on a frôlé le pire. Parce que à un moment, Donald Trump était prêt à faire une déclaration. Il était allé jusqu'à dire que si les résultats sont bons, il accepte. Mais si les résultats ne sont pas en sa faveur, il va refuser. Donc la question que je me pose, c'est si Kamala Harris était ressortie vainqueur, qu'est-ce qui se serait passé? On aurait certainement eu un scandale. Donc ça aussi, il faut dire que c'est un exemple à ne pas suivre.
Alors, dernière préoccupation par rapport à cette émission qui nous a réunis aujourd'hui, c'est la présence des hommes d'affaires, la présence de l'argent, de beaucoup de financiers dans ce processus électoral américain. Mesdames et messieurs, je voudrais avoir votre avis. Une élection, ça coûte cher, ça demande beaucoup de moyens, mais les financiers étaient aussi très présents de part et d'autre avec la liste des donateurs. Ça faisait quand même beaucoup, au point où on se demandait qui partait en campagne. Est-ce que c'était les deux candidats ou bien c'était les riches qui étaient en campagne? Alors, votre réaction, Maître Drissa Traoré.
Est-ce qu'on peut faire une campagne sans argent? Pour moi, les États-Unis sont tellement un grand pays, tellement... Il faut beaucoup de ressources. Il faut pouvoir aller partout. Il faut que celui qui se trouve dans le dernier village comprenne ce qu'on veut pour notre pays. Et donc, C'est indispensable, mais ce qu'il faut. Il faut réglementer, il faut que ce soit de l'argent propre. Il faut que celui qui finance, qu'on sache l'origine de ces fonds-là. Il ne faut pas que ce soit l'occasion ou le prétexte en gris pour blanchir de l'argent. Il faut également, quand celui qui sort son argent demain, il faut qu'on comprenne également où c'est venu. Est-ce qu'il a eu cet argent? Mais surtout, il ne faut pas corrompre. Il faut mettre les mécanismes, il faut éviter. Mais si c'est pour aller en campagne, moi, en 2010, nous étions dans ce pays, la campagne, sans citer de nom, mais un candidat de l'opposition avec un avion pour faire battre campagne dans ce pays, dans les élections de 2010. Je cite pas de nom, mais chacun sait c'était qui. Pour moi, c'était pas scandaleux, au contraire. La période était tellement courte, il fallait pouvoir être amant. Et puis après, se retrouver à Korogo, après, peut-être à Bondoukou. Si tu n'as pas ces moyens-là, comment tu fais? Tu ne peux pas prendre ta voiture pour aller à Korogo, il faut une journée. Le lendemain, tu fais un meeting. Le surlendemain, tu reviens, ça te fait 3 jours pour un meeting à Korogo. Alors qu'avec un avion, tu quittes Abidjan à 7h, à 9h, tu fais ton meeting, à 10h, tu as fini, à 12h, tu as mort, tu fais un autre meeting, et puis peut-être l'après-midi, tu finis à Bondoukou. Donc pour moi, l'argent, c'est indispensable pour la campagne, mais il faut peut-être que cela soit réglementé pour que ça ne soit pas du tout pour blanchir aussi.
Docteur Bogasako, pour la question de la présence de l'argent de façon visible comme ça dans les élections, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est-à-dire que le miroir de notre débat d'aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Les États-Unis, c'est une tradition. Dans leur culture, un homme qui veut briguer la magistrature suprême, c'est qu'il a une caisse. Et parfois, il y a les donateurs. Donc c'est comme ça que parfois les lobbies font pression même sur l'élu, hein, dont on le voit toujours, des puissants lobbies, des puissants financiers. Ça, c'est la culture américaine. Mais nous, la culture occidentale et notamment française que nous avons, c'est qu'on balise. Par exemple, en France, c'est balisé. Si vous voyez que Nicolas Sarkozy est toujours en procès, c'est parce qu'on considère qu'entre lui et l'ancien président libyen Kadhafi, certainement, il a dépassé le plafond avec l'affaire Big Maillon, etc. Donc déjà, en France, on balise. Il y a un certain montant que tu ne peux pas dépasser, quelle que soit ta fortune. Maintenant, moi, je prends le cas africain.
Ouais,
chez nous, Africains, on a une culture de la moralité. Et nous sommes des pays pauvres. Nous avons des populations pauvres. Chez nous, c'est obscène et même méprisant que celui qui veut diriger brandisse de l'argent. C'est ça la culture qu'on nous a enseignée. Sinon, les Laurent Gbagbo seraient jamais président. Son histoire est devenue comme une leçon dans notre pays. Je prends le cas de notre pays. Où on disait qu'à l'époque même, c'est un certain Sansan Kouaou qui a payé même sa caution. Parce que Oufouette Boigny a mis la caution à 20 millions pour pouvoir éliminer ses adversaires. Nous, on n'aime pas la culture de l'argent. Celui qui doit nous diriger, il doit nous ressembler. Regardez, prenez le Sénégal. Diomaye Faye et son ami, ils avaient quel milliard pour devenir président? Moi, je pense que c'est le peuple qui doit s'exprimer. Et souvent, ça nous choque. Regardez, aujourd'hui, la caution est à 50 millions. Moi, je me bats contre cela. Pourquoi on veut faire de la Côte d'Ivoire un pays d'élite? Donc, celui qui n'a pas d'argent ne peut pas nous diriger. C'est pas normal et c'est pas juste. Donc, c'est relatif. En fonction du pays où on se situe, on peut placer pour les milliardaires. Moi, je ne veux pas être dirigé forcément par un milliardaire. Je veux être dirigé par quelqu'un qui a des valeurs et qui peut être égal un peu au peuple. Parce qu'après, on utilise nos paysans. Parce que ce pays-là, c'est un pays agricole. C'est pas un pays de financiers. C'est pas un pays d'industriels. La Côte d'Ivoire est un pays d'agricole, de paysans. Nos moments au marché. Donc, votre affaire d'argent, là, ça nous pose problème.
Malika Camara, sur cette préoccupation, la présence de l'argent dans le jeu politique.
Je pense que c'est à expérimenter. Peut-être que ça peut se faire de façon un peu officieuse aussi. Donc, mon inquiétude, en fait, suite à l'intervention de Dr Boga, c'est que si quelqu'un qui n'est pas nanti vient au pouvoir, le risque, c'est qu'il arrive au pouvoir pour chercher à s'enrichir. Maintenant, il faut le dire que les financiers aussi, ils ont ses intérêts aussi à le faire. Bon, on a vu, hein, pour cette élection américaine, qu'on a eu près de 16 milliards de dollars qui ont été levés. Et aujourd'hui, comparativement à la dernière élection où on s'est retrouvé avec pratiquement 15 milliards. Donc, on a vu aux côtés de Donald Trump un de ses soutiens de taille qui est Elon Musk. Voilà.
L'homme le plus riche du monde.
Voilà. Mais quelque part, il y a une contrepartie qui est attendue. On sait qu'ils s'attendent derrière ça à avoir un impact sur la régulation de certains textes, de certaines lois qui concernent. On sait qu'il est très technologique, donc peut-être pour faciliter un peu les choses. Donc forcément, il y a une contrepartie aussi derrière.
Madame Yolibi, sur cette question.
Sur cette question, je pense qu'il faut baliser. Il faut baliser, surtout dans nos États. Ça pose un problème pour les personnes qui ne sont pas nanties, notamment les femmes. C'est-à-dire, ils mettent ça pour éliminer souvent aussi les femmes. Et regardez les gadgets que les gens font pendant nos élections en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région. Les gadgets seulement. C'est des millions. Des millions alors qu'ils sont incapables d'aider des jeunes à faire leurs extraits de naissance ou à faire leur carte nationale d'identité. À côté de nous, il y a un exemple très concret. Hein. Il y a le Burkina Faso a pris une loi où les gadgets sont interdits pour la campagne. Et moi, je suis d'accord pour ça. Parce que ça fait qu'avec les gadgets, si quelqu'un ne donne pas de t-shirt, ne donne pas de chapeau, on ne le vote pas. C'est un achat de conscience. Et nos populations ne sont pas suffisamment mûres pour faire la différence entre l'achat, les 5 000 francs qu'on leur donne, et puis le discours politique qui n'est pas derrière. Et comme Malika l'a dit, même aux États-Unis, les gens qui ont financé là, ils attendent un retour sur investissement. Et c'est la même chose. Bon, ici, il n'y a pas de plafonnement. Et moi, je suis d'accord avec la France où il y a un plafonnement. Je suis d'accord. On peut lever des fonds, mais vraiment, des gadgets pour éliminer. Et... Non, non, ça fait disproportionné.
D'accord. Malgré Ndéi, sur la question, c'est l'argent et la démocratie. Est-ce que ça fait bon ménage?
C'est un jeu d'hypocrisie, en réalité. Ces choses ne sont pas possibles sans l'argent. Mais justement, la complexité de notre situation, c'est justement parce qu'on n'a pas voulu mettre les choses claires. Mettre à parler tout à l'heure, il y a des candidats qui ont fait campagne avec des guerres privées. Mais l'argent est venu d'où? On ne saura jamais. Celui qu'on dit qu'il est pauvre, et il n'a pas les moyens, et puis il a pu payer les 25 millions, là, justement, là. D'où l'argent vient? Est-ce qu'on a cherché à savoir d'où l'argent vient? C'est pourquoi les Américains, tout est clair. En fait, là-bas, la commission électorale fédérale n'a pas la vocation, comme chez nous ici, qui est très opérationnelle. Là-bas, c'est justement de veiller à la loi. Donc, c'est plus réglementaire, et justement, sur la question du financement, qui est très clair. Ils sont conscients que, faut pas avoir se mentir. Les gens vont avoir l'argent quelque part. Mais ils ont mis, dites-nous exactement d'où l'argent vient. Donc, ils ont mis en place des mécanismes où il y a des levées de fonds. Les citoyens disent, moi, j'aime ce candidat, je vais lui donner de l'argent. Donc, par exemple, chez nous, ici, il va y avoir les élections. Il y a des gens qui vont donner 500 000 francs, mais c'est de manière clandestine, ils vont donner. Les Américains disent, si Magloire veut donner à un candidat X, il faut qu'on sache que Magloire lui a donné. Ça permet la transparence. Et puis, ils sont allés plus loin pour dire, pendant les élections même là, chacun peut créer ce qu'ils appellent les pactes. Political Action Committee. C'est le comité d'action politique que chacun peut créer pour lever des fonds. Mais justement, les groupes d'animation chez nous ici, là, l'argent les prend ça où? Qui leur donne l'argent? Les comités chez nous ici, les groupes d'action de soutien. Là. Aux États-Unis, tu crées un groupe de soutien, tu lèves l'argent, la trace, il doit avoir une traçabilité sur la provenance des fonds. Ce qu'on appelle le super PAC, c'est que Elon Musk a fait justement. Il ne peut pas donner l'argent dans la clandestinité. Il a créé le super PAC. Tu peux lever des fonds. Toi-même, tu mènes ta campagne, mais la campagne que tu vas mener, les fonds ne doivent pas alimenter la campagne officiellement du candidat. En fait, je vais dire, c'est tellement très clair, très balisé. Chez nous, justement, voilà. Donc, pour moi, il faut cette transparence dans la levée de fonds. Si vous prenez les deux candidats, les deux majeurs, parce qu'il y a 24 candidats, hein, il y avait 24 candidats aux élections, c'est les deux seulement qu'on voyait. Mais les deux principaux, les Républicains, zéro, ils ont mis zéro franc dollar dans la campagne. Zéro. C'est un choix qu'ils ont fait de ne pas financer. Les fonds ont été levés essentiellement par des bénévoles, par des citoyens lambda, des gens qui ont donné de l'argent. Les démocrates, ils ont mis de l'argent, près de 60-65%. Et il y a des chefs d'entreprise qui l'ont donné. C'est la dernière chose que je voulais dire, justement. Pour moi, il faut qu'on arrive à casser ce mythe. Le chef d'entreprise, l'entrepreneur, fait partie de la cité. Il a des choix à faire. Et je trouve dommage que chez nous, justement, les chefs d'entreprise, ils ne sont pas libres de faire des choix. Elon Musk a été victime d'une situation. Il était parmi les démocrates. Il soutenait les démocrates. Et lorsqu'il y a eu le débat sur la question de l'intérêt des États-Unis, sur la question des voitures électriques, la position qui avait été prise par le gouvernement à l'époque, Joe Biden, Elon Musk a estimé que ce n'était pas dans l'intérêt des Américains. Il y a eu une réunion à la Maison-Blanche, il n'a pas été convoqué. Il a estimé que pour les intérêts des Américains, je veux soutenir un homme qui va porter cette vision pour l'intérêt des hommes. Donc c'est ça en fait, je veux dire, que les hommes d'affaires doivent pouvoir clairement afficher leur position et la soutenir, donner $1 million par jour dans un tirage au sort dans les 7 swing states.
Il faut aussi préciser que le secteur de la crypto-monnaie a été deuxième pourvoyeur de fonds de cette campagne électorale.
Oui, parce que j'ai une vision de l'économie américaine. En fait, l'économie réelle, aujourd'hui, les États-Unis sont en train de se spécialiser dans l'économie virtuelle. Donc, ces hommes-là, il n'y a pas une réglementation qui leur permet. Donc, ils se disent, si on met de l'argent, qu'il y a un tel candidat qui porte cette vision, elle va la mettre en œuvre. Donc, moi, je pense que c'est le jeu d'intérêt.
Merci beaucoup à vous tous, chers messieurs. Je rappelle que nous étions réunis cet après-midi sur ce plateau pour parler d'élections présidentielles. Le modèle américain peut-il inspirer la Côte d'Ivoire? Et nos invités étaient M. Magloire Ndeye, chef bureau à la Fondation Friedrich Noma, Mme Marguerite Yolubikone, commissaire central à la Commission électorale indépendante, M. Boga Sako-Gervais, enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara de Boaké, maître Drissa Traoré, avocat au barreau d'Abidjan, secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme, Madame Malika Camara, présidente de l'association USA Alumni Échange Programme Côte d'Ivoire, avec eux. Nous avons débattu des élections américaines, mais surtout l'impact de ces élections par rapport aux élections en Afrique, mais surtout en Côte d'Ivoire, hein, puisque en octobre, en 2025, il y aura élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, mesdames. Et puis, bon retour chez vous. On se retrouve dans d'autres débats sur les questions d'éducation citoyenne. Merci bien.
Ben Diakité.
Vous venez de suivre La Grande Interview.
Réalisation Antoine Coissy.